tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, ce mercredi 11 mars 2015. Christophe Rollin au micro, Gérald est dans les studios. Marie Cognard, notre invitée, qui vient de l'Opéra de Lyon, pour nous, choriste à l'Opéra de Lyon, qui vient pour nous parler du festival Les Jardins Mystérieux, qui commence ce vendredi 13 mars pour se terminer. Ah, je n'ai plus la date sous les yeux, ça se termine à la fin mars, 27, 28, quelque chose comme ça. Marie nous le dira, mais Marie n'interviendra pas tout de suite, elle n'est pas encore là, elle interviendra en deuxième partie d'émission pour nous parler donc plus précisément de l'opéra de Franz Schreker, les stigmatisés. Je n'ai plus le titre en allemand, Die Gesichtsneiten, un truc comme ça. Bref, Gérald, bien entendu, assure comme régulièrement la programmation musicale, Radio Canu, le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien sur internet radiocanu.org. Il est 14h02, on a un petit peu de retard, mais c'est pas très grave, jusqu'à 15h. Heures, on aura le temps de beaucoup parler, vous allez voir. Programmation habituelle de spectaculaire et nous n'écouterons pas la fin de James
White ou White. James, bonjour chers auditeurs.
Salut Gérald, bonjour.
Ça va?
Très bien.
Pas d'invité pour la petite demi-heure qui s'annonce, mais nous aurons une invitée à partir de 14h30 pour parler d'un opéra de Schrecker.
De plusieurs opéras, pour parler, écoute, j'en dis quelques instants, j'en dis quelques mots. Il s'agit donc du festival qui s'appelle Les Jardins Mystérieux. C'est un festival d'opéra qui se tient à l'Opéra de Lyon comme depuis presque 10 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, c'est-à-dire plusieurs opéras vont être donnés, à l'opéra surtout, mais pas seulement. Il y a également un opéra qui sera donné au TNP, et puis d'autres événements seront liés. Il y a un concert donné dans la salle tout en haut de l'opéra. Il y aura également un concert lié qui sera donné en léger décalé au mois d'avril à l'Auditorium avec son ancien chef June Merkel. Donc bref, ces différents opéras sont autour de cette thématique les jardins mystérieux. Et ces trois opéras qui commencent le premier ce vendredi 13 mars, il s'agit des Stigmatisés de Franz Schrecker, un opéra de 1918. Marie Cognard qui intervient un peu dans cet opéra pourra nous en dire quelques mots. L'autre opéra dont toi tu pourras parler, Gérald, la semaine prochaine je crois, lorsque tu l'auras vu, c'est Orfeo ed Euridice. C'est en italien, c'est un opéra pourtant de Christoph Willibald Gluck, compositeur du 18e, peut-être début 19e je crois, mais je crois que c'est assez ancien. Et puis troisième opéra, très contemporain, de Michel van der A, un opéra donc néerlandais, création très récente, hein, je crois 2010, je n'ai plus la date sous les yeux. Il s'agit de justement Les Jardins Engloutis, qui donne plus ou moins son nom à ce festival, Les Jardins Mystérieux. Et c'est celui-ci qui aura lieu au TNP. Alors les dates, c'est du 13 au 28 mars pour ces trois opéras. Je pourrais les indiquer plus précisément pour chacun de ces trois. En gros, ils se succèdent. Hein. Vendredi 13, c'est donc la première de Schrecker, l'opéra de Schrecker, Les Stigmatisés. Samedi, le lendemain, c'est la première de, je crois, Orfeo et Euridice. Et dimanche, je crois également que c'est la première de Michel, je ne sais pas comment on prononce en néerlandais, Van der Aal, cet opéra Les Jardins Engloutis, voilà. D'autres choses sont à consulter, enfin du moins sont à voir. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'Opéra de Lyon, opéra-lyon.com. Je crois même qu'il y a un site dédié à ce festival, j'essaierai d'en retrouver l'adresse tout à l'heure. Pour vous en dire davantage, je ne sais pas, je peux seulement vous lire quelques lignes et puis ensuite Gérald a encore beaucoup à dire. Un air sensuel et envoûtant souffle sur l'Opéra de Lyon. Il s'agit plus précisément ici de cet opéra Les Stigmatisés. Ce chef-d'œuvre brûlant sur l'inconstance des sentiments nous entraîne sur une île secrète, dédiée à l'art et au plaisir où s'épanouissent plutôt excès, complots et trahisons. Une musique quasi hollywoodienne inspirée des plus belles pages de Mahler et Wagner. On pourra effectivement aussi en entendre un extrait tout à l'heure.
On en reparlera plus précisément avec notre invité. Nous écoutions donc James White and the Blacks, alias en fait l'inénarrable saxophoniste punk rock jazz expérimental qui s'appelle en fait à la base James Chance and the Contortions, très connu pour un concert au Bain-Douche en 1980, qui est revenu jouer il y a de ça quelques années dans le cadre des Nuits Sonores pour un concert mémorable ou Subsistance.
Tu l'as vu?
Oui, j'y étais.
Ah d'accord, d'accord.
Il est repassé aussi à Vaux-en-Velin, okay. Au festival de jazz, il y a quelques années, 4-5 ans. Enfin, c'est un saxophoniste. Là, on écoutait un remix. Il a un son unique, hein, et puis une énergie absolument irrépressible.
Ah ouais,
c'est très entraînante pour faire de...
En début d'émission, ouais, ça donne
pour danser, pêche, ouais. C'est très bien, ça évite de faire la sieste.
C'est exactement.
C'était un remix de Auguste Darnell, remix, et extrait d'une compilation donc, de 2004, James White and the Blacks. Il avait changé de nom entre-temps et maintenant, il a vieilli.
Très bien. Toutes ces indications se trouveront sur le blog. L'émission la semaine dernière avait été un peu... Enfin, du moins, n'est pas encore en ligne, mais ça va bientôt venir. Et je crois que je donnais les précisions sur les différents tubes que nous avions écoutés. Je le ferai également pour l'émission d'aujourd'hui. Gérald, donc là, 14h09, ça signifie qu'il nous reste encore une vingtaine de minutes pour évoquer ce que nous souhaitons, puisque Marie Cognard des chœurs de l'Opéra de Lyon n'est pas encore avec nous. Elle arrivera en deuxième partie d'émission. Je t'en prie.
Alors moi, j'aimerais revenir sur un invité et un compositeur, j'allais dire. Non, un metteur en scène, comédien, qui a été reçu dans une émission autour de la 50e. Benjamin Forel.
Bien avant,
la 30e. En tout cas, j'ai à vous parler d'un lieu qui vient d'ouvrir. J'essaie de les inviter, on pourrait faire une émission spéciale. C'est un lieu atypique qui vient d'ouvrir à la frontière de Lyon et de la Mulatière, donc sur les quais de Saône, en face d'un embarcadère qui s'appelle Au Bon Sauvage. Bon, évidemment, c'est quai Jean-Jacques Rousseau, d'où le nom Au Bon Sauvage. C'est un lieu qui a 7 mois. C'était vraiment une expérience intéressante. J'aimerais bien qu'ils viennent en parler un jour, mais ils travaillent parce qu'ils font le service.
Restauration
bio avec des produits éthiques, quasiment en commerce équitable. Il y a une exigence au niveau éthique, au niveau bio, au niveau tout. Et en plus, c'est une salle de spectacle qui accueille des concerts, des spectacles de théâtre, toutes sortes de choses. Là, l'emploi du temps, là, le planning est plein, quasiment. C'est une terrasse, on y mange très bien. On y boit très bien une bonne bière, pas chère du tout. Allez, voilà. La Folleuse, pour ceux qui connaissent.
Les prix, parce que là tu dis...
Et les prix sont tout à fait abordables.
De bio et d'exigence.
Le lundi c'est fermé, mais à partir du week-end, donc ça ferme à 1h du matin, et il y a régulièrement une programmation. Si cela vous intéresse, il suffit de taper Bon Sauvage sur internet et vous trouverez tous les renseignements, plus la programmation du mois à venir. Donc j'y étais samedi soir et j'y ai revu notre invité d'une émission, Benjamin Forel, pour un spectacle très intéressant qui se donne aussi en appartement. Donc le théâtre en appartement, ça a déjà quelques années, c'est un concept assez intéressant. D'autant plus quand il s'agit de la troupe du Levant, dirigée par Benjamin Forel. Donc c'était un spectacle qui s'appelait Viens, viens, petite, viens. En fait, la suite, trois points de suspension, c'était te faire tripoter par ton tonton.
Ah,
c'est un texte, c'est un spectacle assez secouant, remuant et qui a une violence intérieure.
Qui est l'auteur du texte?
Alors, est-ce que je l'ai ici sous le nez? J'ai oublié, c'est un auteur israélien, il me semble. Ah, c'est Hanok Levin. C'est un texte très court, mais d'une grande force poétique, qui parle de choses fondamentales de l'existence. Il y a trois interprètes sur scène, trois acteurs, qui donnent beaucoup d'énergie. Je vais pas en dire plus, j'étais vraiment assez impressionné par la force de ces acteurs.
Benjamin Forel est-il lui-même dans
Non, il a présenté, il a lu une lettre en fait.
Il est metteur en scène.
De Hanok Levin. Il a lu une lettre, parce que ce spectacle a été censuré pour sa subversion, parce que c'est vrai que c'est un texte subversif qui a été mis en scène de manière assez efficace et subversif, mais il y a aussi de l'humour, hein, rassurez-vous, c'est pas un truc trash qui vous laisse sans voix et qui vous dégoûte presque. Loin de là, il donne à réfléchir et il est vraiment très, très intéressant. Vous pouvez même le faire venir en appartement, chez vous. Tout est expliqué. Bon, il me l'a proposé d'ailleurs. Voilà. En tout cas, les Bons Sauvages, c'est une adresse à retenir. Au Bon Sauvage, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce lieu qui mériterait de perdurer, puisque c'est un lieu assez unique à Lyon et même dans la région lyonnaise.
Eh bien, tous les renseignements apparaîtront. Là, je crois repérer son nom. Je vois qu'il y avait déjà une brève sur le blog dans l'émission 54, l'émission du mercredi 28 janvier, puisqu'il y avait déjà un spectacle qu'il mettait en scène. Et puis sinon, lui-même, quand est-il venu? Est-ce que ça apparaît bien sur le blog? Il serait venu le mercredi 25 juin dans l'émission 38e. Aujourd'hui, c'est quoi, la 58e? On approche de la 60e, oui. Je crois. Ou c'était peut-être déjà la semaine dernière. Je ne sais même plus. Gérald, un peu de musique ou tu souhaites continuer sur de la presse ou
Non, je pourrais parler aussi au niveau art plastique, puisqu'il y a un nouveau salon qui a vu le jour à l'initiative de différentes personnes. Il y a une galerie assez connue sur les pentes de la Croix-Rousse, la galerie Souchaud, qui a fermé, et il se trouve que Françoise Souchaud, d'autres gens, un collectif de galeristes, ou plus ou moins de gens du milieu art plastique, s'est organisé pour exhumer en fait un ancien salon qui avait été créé par Puvis de Chavannes en 1886, l'ancien salon des Beaux-Arts. Il a été exposé toute la semaine, je crois que ça continue encore, à l'espace Berthelot, donc avenue Berthelot, une sélection de 10 peintres, une dizaine de peintres lyonnais, dont notre amie Elsa Yurieri, qui a été aussi une ancienne invitée, c'est pour ça que je
voisine,
fais
le suivi. Voisine de Radio Canu.
Voilà,
en plus, c'est très bien.
Il faut faire du suivi de tous ces invités.
Donc,
elle y expose un de ses très beaux tableaux qui s'appelle En Chemin.
À Écully se trouvait Cécile Borde, je crois.
Non, Claire Borde.
Claire Borde, et puis...
Et Elsa Guriri, toutes les deux. Exactement. Qui avaient fait une belle expo dont on avait un petit peu parlé.
Voilà, vous
invitez.
Ah, bon. Incroyable.
On va peut-être finir, alors ils sont en avance.
Ils arrivent en direct. Non,
en tout cas, ce salon s'appelle SLBA. Il se déroulait toute la semaine. Je pense que c'est encore ouvert à Espace Berthelot. Un nouveau salon amené à perdurer. Il y aura un salon aussi du papier très bientôt. Et pour les plasticiens et les artistes qui seraient intéressés, qui nous écoutent, vous pouvez prendre des renseignements sur Internet. Et les dossiers pour le salon du papier sont encore ouverts pour inscription. Voilà.
Bon,
bonjour mesdames.
Bon. Gérald, pour les accueillir, je lance Nevech, c'est ça? Tu m'avais indiqué tout à l'heure. Je mets
un petit peu de rap marseillais, NFC, qu'on m'a prêté, que je ne connais pas du tout, la deuxième.
Très bien, alors je lance ça et nous continuons donc avec nos invités qui sont là, notamment Marie Cognard. Alors attention Gérald, j'ai coincé le CD. Est-ce qu'on réécouterait qu'est-ce qu'on pourrait réécouter? Du Dick Angarn. Ça va être très bien, je crois, du Dick Angarn, puisque...
Je cherche une chanson.
Oui, on va mettre une autre chanson. On va trouver ça incroyable, une émission.
C'est ça l'éclectisme musical, c'est passé de James Chance and the Contortions à Deacon Garn, qui passera d'ailleurs à la fin de l'année à Saint-Priest. Je cherche une chanson, la 4.
Je cherche, très bien.
Un grand troubadour du 20e siècle, du 21e siècle, comme il en existe peu.
Je le lance et nous accueillons plus précisément donc Marie Cognard qui est là. Mais nous,
comme ça, on a du rock, de la chanson,
voilà, écoutons Deacon
Garn. Francophone et de l'opéra.
Je cherche une chanson à mon image. Je cherche une chanson à double vage. Faudrait qu'elle soit jolie, ma mélodie. Faudrait qu'elle soit plus belle qu'une ritournelle. Qu'elle soit séante et élégante. Faudrait qu'elle y ajoute, s'ajoute. Je cherche une chanson belle parole. Je cherche une chanson des paroles. Les tambours, que cinglent les cymbales, que grattent les ribèbes, que claquent les crotales, que corrissent les corps, que grattent les guitares, que jouent les bignoux, que scient les sitaires. Je cherche une chanson à ma convenance. Je cherche une chanson à ma cadence. Je la voudrais danser d'un autre pas de deux. Je la voudrais choyer par mes chers aïeux. Je la voudrais chanter avec un verre de cidre. Que toque le tocsin, que sonne l'éclipsydre. Je cherche une chanson qui me ressemble. Je cherche une chanson qui nous rassemble.
Deacon Garn est en train d'achever sa chanson qui est le « Je cherche, dis-tu » sur l'album.
Le dernier, hein, Velova.
J'indiquerai tout cela sur le blog.
Il passe à Lyon hein, fin de l'année, on en reparlera. Et j'aimerais bien qu'il vienne ici, ça serait génial.
Peut-être. Gérald, soyons donc courtois, polis et fort civils. Donc accueillons Marie Cognard. Bonjour Marie.
Bonjour.
C'est Gérald. Bonjour. Qui force à faire la chose, mais tu as tout à fait raison. Même d'ailleurs, une prochaine fois, on le fera sans le dire. Marie, vous êtes donc chanteuse ? Enfin, je ne
oui,
sais pas
je suis choriste à l'Opéra de Lyon.
À l'Opéra de Lyon. Bien, je vous en prie, même si vous arrivez donc un peu après le tout début de l'émission où normalement l'invité brosse un portrait, se présente, donc peut-être que les minutes sont un peu comptées, mais quand même, vous avez le temps de nous indiquer depuis quand vous êtes à Lyon. Peut-être pas nécessaire d'évoquer votre vie pré-lyonnaise, j'ai cru comprendre qu'il y en avait une. Comment cela est-il possible de vivre avant d'arriver à Lyon? Donc vous êtes à Lyon, ça ne fait pas encore 10 ans, mais ça...
Non, ça fait 7 ans que je suis à Lyon. Je suis rentrée dans les chœurs à l'Opéra en septembre 2007. Et voilà, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que j'ai pris un congé de l'opéra pour travailler dans d'autres domaines, mais voilà, je suis à nouveau dans les chœurs de l'opéra et donc depuis 7 ans. Voilà.
À quel pupitre ?
Je suis dans le pupitre de soprano, donc les voix les plus aiguës du chœur. On est 7 sopranos et on est 34 dans le chœur, donc voilà. Ça fait une petite équipe.
Est-ce que vous pourriez situer pour ce qui est en France, par exemple, est-ce que ces chœurs de l'Opéra de Lyon sont importants ou c'est...
Ah oui, alors moi, c'est un peu délicat de parler de soi, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un des chœurs lyriques, un des meilleurs chœurs lyriques en France.
Et d'ailleurs, voilà. On a salué la performance du dernier opéra, les chœurs étaient exceptionnels.
Toi, tu l'as vu.
Oui, je l'ai vu.
C'était quel opéra?
Le dernier, j'ai oublié le nom déjà. Idoménée.
Idoménée.
Ah, voilà, et franchement, les chœurs étaient, étaient très très bien.
Oui, qui est un opéra de Mozart où il y a beaucoup de
très énergique.
Ouais.
Est-ce que vous interveniez vous-même dans cet opéra?
Oui, tout à fait.
Sur la distribution.
Tout à fait, oui.
Pendant que j'y suis, on n'avait pas pu préciser sur le blog de la radio le nom, parce que j'ai oublié, je l'ai cherché un peu sur Internet, je n'ai pas trouvé, de la remplaçante in extremis d'un des rôles principaux. Avec un nom polonais qui a chanté avec le pupitre à côté à gauche,
c'est con,
qui avait une voix exceptionnelle.
Tout à fait,
on est magnifique.
Une très jeune femme, très belle et
voilà,
qui chantait très bien. mais je ne sais absolument pas son nom.
Ce que nous pourrons faire, Gérald, peut-être, c'est questionner Sophie, l'attachée de presse. Je mettrai la main sur l'information, Gérald. J'essaierai de me renseigner. Mais bon,
il faut lui rendre justice.
Bon,
en plus, jouer comme ça, au dernier moment, puisqu'il y avait une extinction de voix de l'acteur principal.
La fille.
L'actrice, c'était vraiment bien.
Ça arrive régulièrement, hein, parce que forcément, les chanteurs...
Ils ont tous leur doublure, en fait, les rôles principaux.
Ah non, on n'a pas de doublure, mais l'opéra est obligé d'appeler un peu en dernière minute, en catastrophe, des chanteurs qui peuvent venir chanter le rôle, voire le jouer. Donc c'était très
étrange de voir le décalage entre...
C'est un drôle d'effet.
Oui. Hein. La personne joue, continue à jouer son rôle, mais en playback, quoi. Elle ouvre la bouche exactement au même moment, à mini-seconde près. Ouais. Et puis on a la chanteuse à côté, à gauche, sur son pupitre. Alors on est attiré effectivement à gauche.
C'est vrai, oui, le regard.
Je vous demandais, Marie, si vous interveniez dans cet opéra, parce que je crois que les choristes ne sont pas sur chaque production de l'Opéra de Lyon. C'est pas systématique.
Ben, ça dépend complètement de ce qu'a écrit le compositeur de l'opéra, parce qu'il y a des opéras où il n'y a pas de chœur, mais c'est quand même assez rare, malgré tout. Hein, souvent des parties de chœur plus ou moins importantes. Alors pour nous, évidemment, c'est plus intéressant quand on a une belle partie de chœur et une belle présence scénique aussi. Mais on est quand même pratiquement sur toutes les productions.
Et alors pour cet opéra, Les Stigmatisés, dont nous allons parler dans quelques instants, peut-être pas tout de suite, vous avez même un rôle.
J'ai un petit rôle.
Est-ce que nous pourrions peut-être revenir? Nous en avions parlé, j'avais évoqué la chose avec cette Sophie dont je viens de parler. Nous avions parlé de le chef des chœurs, je crois, a quitté l'Opéra de Lyon pour un poste ailleurs.
Oui. Tu étais Locatelli? Non, c'est la nouvelle Locatelli.
Ah non, Karine Locatelli, c'est la chef de chœur, c'est la chef de la maîtrise, du chœur d'enfant de l'Opéra.
Ah oui.
Donc,
c'est très bien, faisant un peu d'organigramme. Donc Karine Locatelli pour le chœur de la maîtrise.
La maîtrise, donc les enfants. Voilà, qui ont...
Jusqu'à quel âge? 15 ans, 16
je
ans?
Je crois qu'ils vont jusqu'à 18 ans. Je ne voudrais pas dire de bêtises et dire d'erreur, mais je crois que c'est jusqu'à 18 ans. Ouais. Ils ont un cursus, en fait, ils vont à l'école et ils ont la maîtrise complètement intégrée dans leur cursus scolaire avec des cours de danse, des cours de solfège, des cours de piano. Enfin, c'est très, très complet. Une vraie formation pour
les chanteurs. C'est mieux que la Starac ou pas?
On n'est pas tout à fait sur le même
créneau,
voilà.
Et puis vous-même, alors votre chef des chœurs donc a changé, ce n'est
alors,
plus
Alors notre
Alan
chef
Woodbridge.
Des chœurs, Alan Woodbridge, qui a été là, alors c'est pareil, je ne sais plus pendant combien d'années, mais pendant au moins une vingtaine d'années, est parti à l'issue de la saison dernière pour diriger les chœurs de Genève, de l'Opéra de Genève.
Je crois que c'est également le grand théâtre.
Le grand théâtre de Genève.
Et le chef actuel, c'est une femme, c'est ça?
Alors non. Là en fait, on n'a pas de chef titulaire pour le moment. Donc cette année, on a travaillé avec des chefs différents. depuis le début de la saison. Sur chaque production, on a eu un chef pas différent pour le coup, parce que ça fait maintenant la troisième fois qu'on travaille avec un chef anglais qui s'appelle Philip White. Et voilà, et on va savoir dans quelques temps quel sera l'heureux élu pour l'année prochaine qui remplacera Alan Woodbridge. Pour l'instant, on ne sait pas trop.
Voilà. Et pour cet opéra précisément, peut-être qu'on pourrait donc commencer à en parler, parce que je souhaiterais faire écouter j'ai trouvé un titre de ces stigmatisés de Franz Schreker. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que c'est très musical, et justement on n'entend pas beaucoup de voix. À la toute fin du morceau, on entend seulement Tamaré qui lance à j'ai mangé son nom, Carlotta. Il lui lance pourquoi t'enfuis-tu, elle dit non, et bam, ça coupe. C'est sur une compilation.
On aura l'esprit au moins de la musique.
Oui, peut-être. Sinon, je ne crois pas. J'ai bien lu que l'opéra sera enregistré par France Musique, il sera donné.
Oui.
Il y a les deux opéras seront donnés.
Diffusion le samedi 4 avril à 19h.
Ça, c'est lequel?
C'est le premier, Les Stigmatisés, samedi 4 avril à 19h, et Orphée Eurydice, samedi 21 mars à 19h en direct, dans Samedi Soir à l'Opéra, présenté par Judith Chen.
Donc, vous pourrez écouter à la radio ce que ça donnera. On pourra peut-être, parce que sur le site, comme il n'y a pas encore eu, c'est une création française, je crois, c'est une première en France de cet opéra. Il n'y a pas encore de, si peut-être que la générale aurait pu être disponible, mais ça n'est pas le cas. Donc, ce que nous allons faire, c'est écouter cet extrait, écouter justement à quoi ça peut ressembler cette musique.
Un élève de Wagner, c'est ça? Un suiveur, un disciple.
Élève, je sais pas, mais effectivement, je sais pas s'il a travaillé avec Wagner, mais effectivement, il y a beaucoup de
d'influence
de Wagner dans sa musique.
Ouais. C'est de l'opéra wagnérien, on pourrait dire.
Je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, on peut...
Le côté moderne aussi, encore
on
plus.
On peut tout à fait reconnaître dans l'écriture, il y a beaucoup de Wagner, oui.
Il est question de splendide luxuriance sur
l'histoire, on pourra en parler, elle a l'air très intéressante, en tout cas.
Alors... Écoutons un peu à quoi ça ressemble, cet opéra, et puis ensuite, Marie, qui elle-même... choriste certes, mais sur cet opéra, elle a un rôle, pourra nous en parler de l'intérieur. Donc nous lançons, c'est un enregistrement de, je ne sais pas si c'est Lothar Lagrossek, enfin quelque chose comme ça. Bref, nous lançons ce morceau pour introduire cet opéra, Les Stigmatisés de Franz Schreker. Et à l'instant, donc Carlotta chante non. Et puis le morceau couple, j'en suis désolé, c'est extrait d'une compilation que Gérald, peut-être l'apprécierais-tu cette compilation. Elle s'appelle The Goldschmidt Album et il est question, enfin du moins sur un CD supplément, c'est Entartete Musik.
Musique dégénérée.
By the Third Reich. Musique dégénérée, effectivement. Mais pour le coup, Marie va peut-être justement nous le dire, pour le coup, c'est pas totalement dans la musique dégénérée, cet opéra-là, puisqu'il date de 1918. Je vous en prie, Marie, enfin, ou alors peut-être pas tant parler de cet opéra lui-même, mais alors votre rôle, puisque nous recevons à 14h30 sur Radio Canus, c'était annoncé, donc c'est bien le cas, nous recevons Marie Cognard, artiste, chanteuse, choriste de l'Opéra de Lyon, et dans cet opéra, Les Stigmatisés de Franz Schreker, un opéra de 1918, qui commence ce vendredi 13 février. Et qui durera sur...
Jusqu'au 28 mars 2015.
Alors, ça, c'est tout le festival. L'opéra lui-même sera donné sur quelques dates. Je pourrais préciser tout cela. Eh bien, donc, Marie est avec nous pour parler eh bien, peut-être de cet opéra et de son rôle. Un rôle intéressant, puisque, à défaut peut-être de chanter beaucoup, vous êtes très présente.
Effectivement, je chante très peu, puisque je chante 8 mesures dans l'opéra.
Donc, c'est un prénom,
faut
non,
pas
c'est
aller
ça
rater,
c'est...
Hein, celle-là.
C'est un nom, un prénom, non, c'est quoi déjà le mot que ce que vous chantez?
Alors le nom, le personnage s'appelle Ginevra Scotti. Donc c'est une jeune génoise, parce que l'histoire se... Faut que je parle un petit peu d'histoire peut-être, oui, c'est...
Oui.
Donc l'histoire se passe à Gênes, et elle fait partie de... Bon, c'est une... Alors, je sais pas de quelle caste elle pourrait être, c'est pas très important en fait.
Plutôt élevée, je pense.
Je pense plutôt élevée, effectivement, mais en même temps, il faut voir que l'histoire a pu être un peu transposée aussi par le metteur en scène, donc on n'est pas...
C'est une courtisane, peut-être ?
Ce n'est pas une courtisane, non. C'est une très jeune fille.
D'accord.
Là, dans le... Dans l'opéra, je pense qu'elle a elle a 17 ans.
On en fait une courtisane. Enfin, disons, il y a quelque chose.
Alors,
elle est enlevée.
Elle est séquestrée. Moi, je vais vous parler de. Je peux vous parler du rôle dans le cadre de cette mise en scène. Je pense que ça aurait pu être complètement tourné différemment avec un autre metteur en scène. Mais il a vraiment pris le parti, donc David Bush, le metteur en scène des Stigmatisés, de mettre en avant dans l'histoire le sort de ces jeunes filles qui sont enlevées, torturées. Donc moi je suis la victime, vraiment dans tout, du début à la fin la victime. Voilà, elle est torturée, enlevée, séquestrée dans une cave dont elle essaye de s'échapper plusieurs fois. Elle est violée, elle se retrouve, et quand elle ressort de sa cave dont elle arrive à s'échapper, elle est enceinte de son violeur, voilà. Et
sujet d'actualité, hein. On repense au Nigeria, aux lycéennes enlevées,
c'est un univers très 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 noir là dans l'opéra. C'est vraiment. Alors je sais pas si je dois révéler la fin de cette pauvre Ginevra Scotti, parce que si les gens vont le voir, ils ont peut-être pas envie de savoir avant ce qui va lui arriver.
Au cinéma.
Mais son sort n'est pas très 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 joyeux. Mais voilà, c'est l'histoire vraiment de toute la domination
masculine.
Oui, alors
n'ayons pas peur des mots.
C'est pas très très positif de dire ça. Mais en fait,
phallocratique alors.
Ce qui est intéressant, c'est je trouve dans cette histoire, c'est vraiment l'ambiguïté de Carlotta qui tombe sous le charme de la beauté de la magnifique âme de Alviano, mais qui en même temps est irrésistiblement attirée par la beauté dominatrice de Tamar. Voilà.
Vous voulez qu'on rajoute quelques éléments? J'ai le texte sous le nez pour spécifier des choses, parce qu'elle est coincée entre deux personnages en fait qui s'opposent, c'est ça?
Oui.
Qui sont à la fois proches mais très différents et qui s'opposent.
Oui, bah complètement. Elle est. Enfin oui, si vous voulez rajouter quelque chose.
Oui, bah je peux lire ce qu'il y a sur Internet finalement.
Oui,
ça complétera ce que vous avez dit.
Le site de l'opéra, c'est ça, Gérald?
Voilà, c'est le site. J'ai trouvé ça. Opéra. Donc à Gênes au XVIe siècle, Alviano est un noble très riche sur une île près de la cité. Il a fait bâtir l'Élysée. Un domaine dédié à la beauté de la nature et des arts. Domaine qu'il n'a jamais vu et où il ne va jamais, de peur de le gâcher. Alviano est très laid. À l'opposé, Tamare est un noble très beau, sûr de lui, qui a établi dans l'île d'Alviano et à son insu un splendide bordel où les jeunes Génois violent les jeunes filles qu'ils font enlever. Entre ces deux hommes, Carlotta, artiste peintre, important, c'est
oui,
une Artemisia Gentileschi,
c'est...
citation. Elle a su discerner, au-delà des difformités d'Alviano, l'extrême bonté de son âme. Beauté, pardon. Ah, lapsus révélateur, lapsus platonicien. Et Alviano accepte de poser pour elle. Il s'aime, mais Carlotta est aussi attirée par la beauté dominatrice de Tamare, ou Tamar, à qui elle finit par s'offrir. Alviano tue évidemment Tamar. Carlotta se...
Tu en dis trop.
Bon. Ça y est, j'ai sabré la dernière phrase.
Non, mais c'est intéressant parce qu'il me semblait que la... Enfin, non, il ne me semble pas. George Bernard Shaw résume de manière très simple les intrigues à peu près de tous les opéras, ou disons, pas, peut-être pas tous les opéras, mais 90% des opéras. Toute l'histoire, c'est que le baryton, ou peut-être la basse, empêche la soprano de coucher avec le ténor. Et là, il me semble que ce serait peut-être un peu le contraire, puisque le ténor, c'est plutôt la voix justement d'Alviano, la voix de basse, baryton basse, me semble-t-il, dans la distribution.
Oui, baryton basse, ouais,
pour,
ouais.
Pour Vitellozzo, je crois, Tamaré.
Oui.
Et Carlotta, donc soprano,
Soprano.
Comme vous.
Oui, et d'ailleurs, pas tout à fait le même genre de soprano,
vous,
mais...
Pour revenir à cette question que je vous posais, il me semble que vous chantez vous-même le texte, c'est un texte que, d'après ce que j'ai sous les yeux, le livret de l'opéra, vous le chantez avec Carlotta, et vous chantez « Je dors dans les bosquets ». Vous êtes très... cela est enlevé ou...
Effectivement, on a en coulisses, donc là c'est un chant qui se passe en coulisses, avec Carlotta, ça n'a vraiment aucun impact sur l'histoire. Par contre, j'ai ce que je chante vraiment seule, parce qu'il y a quand même dans le peu que je chante.
Ça c'est en duo. Oui.
Voilà, mais à un moment donné, on m'amène sur scène. J'arrive, j'ai réussi à m'échapper. Et en fait, je rétablis un peu la vérité. C'est-à-dire qu'on me dit, mais où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que t'as fait? Je dis im Haus des Alviano Salvago, c'est-à-dire dans la maison d'Alviano. Donc là, ça laisse entendre que c'est lui qui m'a peut-être séquestrée, parce qu'effectivement j'ai été séquestrée dans sa maison, mais ensuite je dis et donc là, on me pose la question, mais qui vous a fait ça, enfin qui est-ce qui a été le... et je dis un homme noble dont le nom est Menaldo Negroni. Donc voilà, je rétablis la vérité et je disculpe en fait Alviano, qui était accusé par tous ces très méchants hommes génois qui séquestrent des jeunes filles.
Ein Edelmann, voilà. Der sich nannte Menaldo Negroni.
Voilà.
Je vous remercie de nous permettre de le préciser, que cet opéra est chanté en allemand. Orphée et Eurydice, je crois l'avoir indiqué.
En italien.
Le titre,
italien.
Voilà, il est chanté en italien, alors que l'opéra de Bandera, Les Jardins engloutis, lui, sera chanté en anglais. Pour justement, peut-être, je ne sais pas, puisque nous avons encore de longues minutes pour vous poser différentes questions. Cette pratique de l'allemand, est-ce que vous aviez déjà chanté en allemand? Non, je me trompe, Idomene, justement, je pensais que c'était en allemand au départ, alors que Idomene o Redicreta était aussi en italien.
Oui.
Donc vous maîtrisez comme ça différentes langues, ou c'est un travail de diction qui est fait justement en préparation
alors,
de l'opéra?
Le chant lyrique se chante essentiellement, enfin les langues qu'on nous apprend quand on travaille notre voix, c'est l'italien en premier lieu, ensuite l'allemand et le français. Ces trois langues, l'anglais évidemment, et puis ensuite le russe, et puis on peut chanter après en tchèque.
En lingala.
Oui.
Il n'y en a pas beaucoup, je crois, d'opéra, Gérald.
Oh, pas sûr.
L'art lyrique, oui, mais j'ai dit pas beaucoup. Hein.
Peut-être en patois limousin aussi, je ne sais pas.
Oui. Mais Canteloube, c'est du nom ou c'est...
Alors, c'est un compositeur auvergnat.
Voilà, ouais. Mais ce n'est pas du limousin, je crois.
Mais non, c'est...
En patois riversien, Rive de Gier. J'avais lu des extraits un jour.
Et donc,
c'est des langues qu'on maîtrise un petit peu, mais on n'est pas. Moi, je ne parle pas couramment allemand. Je le comprends un petit peu. Je pourrais peut-être me débrouiller en.
Un travail se fait de
précision de la diction, effectivement. Sur les stigmatisés, on a travaillé avec Philippe White, qui a beaucoup travaillé en Allemagne, donc il sait très très bien comment on prononce l'allemand. Mm-hmm. Donc voilà, après, on a des fois des coachs, ça dépend.
Moi j'ai une question par rapport à l'idée de musicalité. Hein. On dit l'opéra tout de suite, on pense Italie, on passe à l'opéra italien, Monteverdi, me semble.
Oui,
un des créateurs de l'opéra.
Un des premiers.
Seberne. Voilà.
Orfeo.
Et en termes de musicalité, on reproche souvent à l'allemand d'être une langue de sinistre mémoire, caricaturée par Charlie Chaplin, voilà, dans les clichés auditifs même. Hein. On pense que l'allemand n'est pas musical, n'est pas beau, n'a pas des belles sonorités, c'est totalement faux. Il n'est pas moins musical.
Moi je trouve ça totalement faux, et je trouve même que par exemple par rapport au français, c'est beaucoup beaucoup plus facile à chanter. Enfin pour moi c'est beaucoup plus facile de chanter de l'allemand que du français. Par exemple le français a un positionnement dans la bouche qui est très 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 difficile ça ferme, c'est plat, alors que l'allemand est beaucoup moins guttural en fait. On a l'impression,
on croit
que c'est guttural quand on caricature l'allemand, on le hache, on le surarticule, alors que c'est très 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 sensuel, c'est très en arrière,
Puis ça peut être très doux hein, quand on écoute les motets de Bach, c'est pas moins doux que l'italien ou d'autres langues.
Il faut souffler sur les consonnes,
Non, c'est Dans le dernier Carambolage sur Arte, une émission fantastique, on apprend par exemple que les Français, pour les gouttes d'eau, disent, il y a la scène, une petite scénette des onomatopées avec les différences culturelles entre les deux pays. Donc un Français pour une goutte qui tombe dit
plic, ploc, non ?
Ouais, glop, bloc, voilà. Plouf. Et les Allemands disent strophe. C'est ça qui est intéressant. Avec l'allemand.
Ils ne disent pas strophe, ils disent strophe.
Oui, strophe. Et voilà. Kikiriki pour les coqs, oui. Au lieu de cocorico. C'est intéressant aussi.
Quel apport Gérald, très lumineux. Je pensais que ça allait être quand même plus sérieux. Oui, plus sérieux.
Ou, si, c'est intéressant.
Et donc, alors, vous intervenez, c'est la première question je crois que je vous lançais, vous êtes tout le temps présente sur scène. Alors, vous l'avez tout de même bien dit, c'est dans cette mise en scène, peut-être
alors,
que
oui,
dans un autre opéra.
Je ne suis pas tout le temps présente sur scène, oui, mais c'est vrai que, effectivement, concrètement dans l'opéra, Ginevra, elle ne chante que, et elle n'apparaît vraiment qu'au troisième acte. Mais le parti pris du metteur en scène a été d'en faire comme une histoire parallèle par rapport à l'histoire de Carlotta, Alviano et Tamaré. Et donc, en fait, on suit cette Ginevra du début à la fin de l'histoire. On a du coup tourné des films à l'opéra avec la personne qui représente mon violeur, on va dire, qui lui, en fait, veut filmer ce viol. Excusez-moi. Et du coup, dès le prologue de l'opéra, j'apparais en film et tout au long de l'opéra, j'ai des petites interventions où on voit que j'essaye de m'échapper, on me rattrape. Et voilà, là, c'est très très intéressant pour moi parce qu'il y a vraiment un suivi, l'histoire de ce personnage, vraiment du début à la fin, il y a une évolution et je peux vraiment habiter le personnage sur la durée, quoi. Le faire évoluer et l'incarner différemment.
Même sans chanter beaucoup, finalement.
Absolument.
Il y a une présence importante.
Oui, oui, oui. Bah, c'est plus là, en l'occurrence, c'est vraiment beaucoup plus un travail d'actrice que de chanteuse, vraiment.
Pour avoir seulement lu le texte pour l'instant, moi il me semble que ce que vous en avez dit, le metteur en scène n'aurait pas trop massacré la chose, c'est plutôt, ça me semble assez fidèle. Je ne sais pas le terme que je veux prononcer, mais il me semble que son rôle est assez important, enfin assez capital pour l'intrigue, dans la mesure où justement vous l'avez dit, elle permet de débloquer certaines choses. Donc si on a pu insister sur des éléments tels que bien une séquestration, un viol ou donc le fait qu'elle soit tombée enceinte, ce qui n'apparaît nullement dans le livret.
Ah non, ça c'est son choix, oui, complètement.
Ben voilà, enfin si dans la mesure où ça ne trahit pas trop, après c'est toujours le problème la mise en scène, est-ce qu'elle permet tout de même de bien entendre la musique, de bien entendre les chanteurs,
oui. Là, je crois que oui. Alors, c'est un univers un peu particulier pour moi. David Bush était un ancien skateur professionnel, je crois. Donc, quelqu'un qui vient pas a priori de l'opéra. Et on a déjà travaillé avec lui sur Simon Boccanegra l'année dernière. Et c'est vrai que c'est un petit peu le même univers. C'est très noir, très. Moi, ça me fait penser à de la BD. C'est. Voilà, c'est des univers un peu fantastiques aussi. Ça me fait penser à du Tim Burton. Voilà, c'est vraiment. Et ça va. Je trouve que ça va très bien avec cette histoire. Je suis beaucoup plus. Enthousiaste par la mise en scène qu'il a sur les stigmatisés que sur Simon Boccanegra par exemple, je trouve que c'était plus difficile, mais là oui c'est, ça colle très bien, pour moi ça colle très bien au livret.
Je rappelle à nos éditeurs passionnés que le livret est téléchargeable sur le site de l'opéra, je l'ai sous les yeux, on a l'orchestre, on a la fiche technique et on a la durée moyenne qui est de 2h50.
Voilà, mais alors attention, on n'a pas le livret lui-même, à savoir, on n'a pas tous les propos, notamment ce Ein Edelmann, der sich nannte Menaldo Negroni. Oui, je crois que ça peut être vraiment très, très, très joli, très bien chanté. Donc, tout ça l'acquérir, pour l'obtenir, si tu te rends, je crois, Gérald, sur la dernière page, il est indiqué que tu pourras le trouver, ce programme, à l'opéra, pour la somme de 7 euros. Je crois que c'est bien, puisque ce sont des volumes assez imposants. Et d'après ce que j'ai pu feuilleter, celui-ci a toute une partie critique avec des textes de Théodore Adorno. C'est amusant, ce nom Adorno, c'est également l'un des personnages qui a un rôle important aussi. C'est un ami de Tamaré.
Alors oui, il me semble que...
Ce n'est pas le Podesta.
Non,
c'est
un des personnages aussi qui, il me semble, mais là j'avoue que je mélange un petit peu les noms, mais il me semble qu'il fait partie des Génois qui violent ces jeunes filles, il me semble. Ou peut-être pas, ça peut être un des personnages
le personnage noble, je crois, c'est celui qui intervient, il discute avec Carlotta avant qu'elle succombe à Tamaré.
Oui.
Il est un peu entre les deux camps, je crois.
Oui, c'est ça, il essaie de... Parce que je crois qu'en fait, dans l'histoire, Alviano, qui a donc créé ce jardin, idée, enfin ce jardin, oui, sur cette île, cette Élysée paradisiaque, donc sur lequel finalement tout lui a échappé, puisque les nobles de Gênes ont fait cette espèce de lieu de débauche et de perversité. Il a envie d'offrir son île à la ville de Gênes. Et du coup, forcément, les nobles paniquent complètement, puisque Mais du coup, nous, on va découvrir tout ce qui se passe là-bas. Et donc, ce personnage d'Adorno, je crois, effectivement, essaie de faire le lien entre la ville et Tamaré.
Pour essayer de faire une légère pause, vous permettre peut-être de reprendre votre souffle, nous allons écouter, on va quand même le mettre, la vidéo disponible sur le site internet de l'Opéra, Les Stigmatisés, c'est donc la création des costumes. On va voir ce qu'on peut en écouter, si c'est un peu trop difficile, eh bien nous couperons pour évoquer d'autres choses.
Oui, l'orchestre par exemple, il faudrait l'égrener parce que c'est une grosse machine.
Bien, écoutons cette vidéo et continuons avec l'opéra Les Stigmatisés qui est mise en scène à partir du vendredi 13 mars jusqu'au courant du mois de mars dans le cadre du festival Les Jardins Mystérieux, c'est à l'Opéra de Lyon. Un peu dommage puisque on entend des gens parler sur cette belle musique dont Gérald va dire quelques mots. C'est l'opéra Les Stigmatisés. Nous diffusions à l'instant la vidéo qui est disponible sur le site internet de l'Opéra de Lyon. Cette vidéo de l'opéra Les Stigmatisés, une musique. Moi j'aimais bien ce terme de splendide luxuriance. Mm-hmm. Gérald, tu sais.
Je pense qu'on entendait un passage calme de l'opéra. Plutôt,
oui, oui, oui.
Une nappe. Donc peut-être qu'on entendait un piccolo. Alors j'égrène un peu les instruments. Un piccolo, trois flûtes, quatre hautbois. Le quatrième aussi cor anglais, quatre clarinettes, une clarinette basse aussi cor de basse. C'est deux bassons, un contrebasson. C'est bien, on apprend plein de choses. Six cors, quatre trompettes, trois trombones, un tuba basse aussi tuba contrebasse, deux timbales, percussion, glockenspiel, xylophone, cloche, deux harpes. Une célesta, un piano, ou un célesta un plutôt. Célesta. Un célesta, un piano, des cordes. Alors, nota bene, pour répondre aux dimensions propres des différents opéras et de leurs fosses, le compositeur avait prévu un orchestre plus réduit avec uniquement deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, quatre cors et trois trompettes. Il a été créé le 25 avril 1918. Et puisqu'on est dans la musique, je finis en lisant la situation un peu dans l'histoire de la musique. Donc, commandé par Zemlinsky, qui était lui-même obsédé par sa laideur. Mmh. L'opéra reprend le débat très fin de siècle entre la beauté corrompue et la laideur ravageuse qui alimente dans l'école viennoise, post-wagnérienne, et chez Schreker en particulier, une musique d'une luxuriance et d'une sensualité envoûtante. N'a-t-on pas dit que Schreker était le plus digne héritier de Wagner ? Petit à petit, l'opéra reprend désormais sa place au répertoire. Il a constitué la révélation du festival de Salzbourg en 2005. L'action se passe à Gênes et nous parle de l'égoïsme des puissants. Pour le metteur en scène David Boesch, qui monte Simon Boccanegra en fin de saison 13-14, c'est passé. La parenté est troublante. C'est en tout cas l'occasion de découvrir un compositeur au charme vénéneux qui connut d'immenses triomphes au début du XXe siècle et peut-être par la suite classé avec la montée du régime nazi comme une tartete musique, notamment avec son opéra peut-être le plus connu, Der Ferne Klang, le son lointain.
Oui, c'est une belle description. C'est vrai que c'est une musique. C'est une musique très dense en fait. Très dense, très sensuelle, avec effectivement des passages. Enfin, moi, il y a beaucoup de passages où on dirait vraiment de la musique de film.
Mmh. Ouais, ce qu'on a entendu déjà. Là,
voilà. Mmh. C'est très varié, c'est très très fourni. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, c'est mon opinion, mais je trouve ça vraiment très 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 beau.
C'est mieux que Wagner même. Il n'y a pas les inconvénients qui vont avec Wagner.
Non, c'est différent quand même. Hein. C'est pas Wagner. Mais...
Il y a quand même cette idée, je crois, de leitmotiv. Il me semble oui. que Tamaré a son...
Effectivement, comme chez Wagner, il y a des personnages qui ont des petits leitmotivs qui reviennent tout au long de la pièce.
C'est-à-dire des thèmes musicaux.
Voilà, des mêmes phrases musicales qui reviennent. Et voilà, c'est une musique en fait, quand je dis qu'elle est très dense, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, ça s'arrête jamais, il n'y a pratiquement pas de pause, c'est vraiment très étiré comme ça, mais avec beaucoup de contraste et qui nous emmène dans des ambiances très très différentes à chaque fois. Moi je suis complètement fan en fait de cette musique.
Alors, en termes de scénographie, de lumière, de costume, les parties pris ont été lesquelles? Par exemple pour, je ne sais pas, matérialiser cet Élysée?
Alors, c'est
pas facile à matérialiser un Élysée.
C'est pas facile, oui, surtout que le metteur en scène a pris le parti vraiment de faire quelque chose qui soit pas ancré vraiment dans une époque. Hein, donc ça se passe absolument pas au XVIe siècle, je crois, quoi, comme le livret a prévu. Puisqu'il y a une caméra, puisqu'il y a, mais enfin c'est assez étrange parce qu'en même temps il y a des éléments de décor qui sont très actuels. Donc notamment une caméra, notamment des cassettes vidéo. Enfin, c'est plus très actuel,
oui,
mais enfin voilà, qui sont quand même contemporaines, on va dire. Mais en même temps, au niveau des costumes, il peut y avoir certains costumes plus qui sont plus fin 19e ou notamment chez les costumes des hommes. Maintenant, Carlotta porte aussi une robe de mariée à un moment qui est complètement actuelle. Mm-hmm. Donc le parti pris, ça a été
de contraster avec justement l'opulence de la partition et de l'orchestre pour une sobriété.
En fait, c'est pas sobre, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'aridité dans le décor, des terrains comme ça très très arides, vraiment, comme un désert par moment. Et par exemple pour le jardin, ce sont des petites LED en fait, qui comme des petites herbes qui montent comme ça sur la scène avec des petites LED. Donc c'est très lumineux, c'est beau, je pense que vraiment c'est des beaux tableaux. Il y a un travail au niveau des éclairages qui est magnifique, mais c'est noir par contre. Hein.
Ça a l'air très noir.
Voilà, bon, en même temps l'histoire est très glauque aussi, donc bon, voilà.
La date tout de même de création, 1918. Alors je ne sais pas si nous l'avions bien dit, nous avons indiqué que c'était un opéra chanté en allemand, mais Franz Schreker est en fait autrichien. Et la date de 1918, l'Autriche, je ne sais plus très bien.
À l'époque, c'est encore l'Autriche-Hongrie, me semble.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est la Prusse.
Très juste. Donc 1918, c'est quand même, la date n'est pas très anodine. Continuer à créer de la musique à ce moment-là, ça devait être assez dur. Quel mot encore dire? Là, par exemple, je tombe sur ce renseignement très précis, les dates. Les vendredis 13 mars, donc à 20h, mardi 17, je crois avoir dit tout à l'heure que c'était donné plus ou moins tous les 3 jours. Alors là, la pause sera un peu plus importante puisque le samedi 14 ainsi que le dimanche 15 seront donnés les autres opéras, Orphée, Eurydice ainsi que les Jardins engloutis. Donc mardi 17 mars, deuxième date, vendredi 20 mars, dimanche 22 mars, jeudi 26 et samedi 28, c'est toujours donné à 20h, sauf le dimanche 22 mars, ce sera donné à 16h. Un opéra qui, donc, tu l'as dit, hein, Gérard, pour la durée de musique pure,
c'est à peu près 2h50.
Mais le site de l'opéra parle plutôt de 3h, 3h30, je crois que c'est...
Peut-être qu'ils prennent en compte l'entracte.
Exactement.
Aussi.
Exactement.
Mais ce qui est bien avec l'opéra, n'étant pas un spécialiste et toujours profane, je commence à en avoir vu un certain nombre, mais... Je reste un grand profane. Ce qui est bien, je trouve, dans l'opéra, c'est quand on peut être déçu par une mise en scène, où il y a toujours quelque chose à prendre en termes d'esthétique visuelle, de tableau, on sait se porter. Puis, vraiment, si on n'est pas subjugué par la mise en scène, on a toujours l'orchestre, la partition. Si on est bien placé, on voit les instruments au travail, c'est encore mieux, etc.
Ben, c'est un spectacle total, l'opéra.
Voilà. Donc, et là, on vient à Wagner.
On peut trouver quand même quelque chose à quoi se raccrocher, ne serait-ce que l'histoire, puisqu'il y a les sous-titres.
Voilà.
Donc, on peut suivre l'histoire.
Voilà. Et on a tout à fait le temps de à la fois lire les sous-titres et d'apprécier la musique et de regarder ce qui se passe et on comprend tout. Pour les plus assidus et les plus travailleurs, on peut même préparer en lisant le livret d'abord pour être tranquille et se détacher.
En fait, moi, c'est vrai que je conseillerais à des gens qui sont jamais venus à l'opéra, je conseillerais vraiment d'écouter une fois. Alors, c'est un peu fastidieux parce que c'est long, donc il faut avoir chez soi un moment, mais bon, ça peut être en faisant la cuisine ou je sais pas, voilà, ou en faisant le ménage ou la cuisine, c'est... mais parce qu'en fait ça, moi j'ai toujours beaucoup plus apprécié d'aller à l'opéra et d'avoir déjà entendu l'opéra que d'y aller sans l'avoir entendu. C'est quand même, ça peut être un peu fastidieux, quoi.
Voilà. Ou alors voilà, quand on y va pour la première fois, on n'a qu'une envie, quand on est content, c'est d'y retourner parce qu'on va revoir un autre spectacle finalement une deuxième fois.
Tout à fait, oui.
Tu parlais donc de la mise en scène de David Bush. On pourrait également dire, Marie, vous évoquiez, vous, de votre côté, bien entendu, les chœurs de l'Opéra de Lyon. Vous disiez que c'était assez bon en France. Ce qu'on pourrait dire, c'est que l'opéra, l'orchestre de l'Opéra de Lyon, et même, je crois, bon, voire très bon. Il me semble qu'à une époque, ça allait peut-être un peu moins récemment, les Victoires de la Musique, c'était systématiquement pour l'orchestre de l'Opéra de Lyon. Et enfin, de toute façon, je crois qu'ils n'ont pas besoin de ces récompenses pour s'illustrer. L'Opéra de Lyon, à la tête duquel se trouve encore Serge Dorny, est un opéra quand même assez réputé. Il me semble même que des Parisiens descendent de Paris pour non pas se rendre à Bastille, donc justement, ni à l'Opéra, ni à Garnier, mais descendre à l'Opéra de Lyon pour voir des productions. Moi-même, d'ailleurs, j'ai vu à Paris, il y a une dizaine d'années, j'ai vu Ariane Anaxos, je l'ai vu à Paris. Je ne l'ai pas vu à Lyon. Je l'avais manqué. C'était la production lyonnaise qui était donc montée à Paris. C'était, je crois, au théâtre des Champs-Élysées. Enfin, bref, c'est vraiment le si, disais-tu, Gérald, la mise en scène, si ce qui se passe sur scène ne plaît pas trop, ce qui se passe dans la fosse est toujours d'excellente qualité. Et là, pour le coup, pour cette musique qui vous plaît beaucoup à vous, Marie Cognard, artiste, chanteuse,
Éric Soprano,
dans
les chœurs de Lyon,
l'Opéra de Lyon. Vous qui dites d'ailleurs, ça pourrait faire matière à deux questions, vous disiez une musique un peu cinématographique. La mise en scène de David Bush, vous l'avez indiqué en début d'émission, évoque... enfin, du moins, utilise un peu de cinéma. Vous avez parlé de captation qui était faite.
Oui.
Moi, j'ai également sous les yeux des termes de Franz Schreker, puisque nous en parlions. Peut-être, je vais terminer avec ces quelques mots. C'est toujours extrait de l'imposant, de l'épais, du très intéressant programme que publie l'Opéra de Lyon. Il y a deux pages sur Franz Schreker qui se présente dans un autoportrait plaidoyer ironique publié en avril 21. Il commence à dire je suis impressionniste, expressionniste, internationaliste, futuriste, vériste musical. Et il évoque notamment différentes choses. Et puis à la fin, c'est intéressant, il termine en disant ce que, pour l'amour du ciel, je ne suis pas. Je n'ai pas encore déraillé, je n'ai pas la folie des grandeurs, je ne suis pas aigri, je ne suis pas un ascète, un gâcheur ou un dilettante, et je n'ai encore jamais écrit de critique. C'est pas dans une émission qu'on évoquait, je crois, que, où c'était hors antenne la semaine dernière, me semble-t-il, que
la critique est facile.
Un critique avait confié à un metteur en scène, acteur de comédien de théâtre, il lui avait confié qu'il n'écrivait jamais de critique négative.
Oui, la critique.
Donc c'est intéressant.
C'est pas la peine d'inviter des gens pour les descendre.
Revenons, allez, il nous reste encore deux minutes. Revenons sur cet aspect cinématographique. Il y a donc des captations. Enfin,
alors, en fait, oui, c'est des vidéos qui ont été, des petits films qui ont été faits, mais c'est complètement artisanal, c'est-à-dire qu'on a fait ce film parce que l'idée c'était que l'homme qui me viole veut filmer le viol. C'est complètement horrible.
Movie,
hein,
c'est toujours
il veut filmer le viol
l'actualité.
Et l'opéra commence là-dessus. L'opéra commence, une scène absolument atroce pour moi d'ailleurs, parce qu'il est avec sa caméra et il montre le film du viol à ses copains. Et ils se marrent, enfin ils sont contents, ça les fait rigoler, ils trouvent ça génial. Voilà, donc effectivement, il a utilisé la vidéo, enfin le film, comme un support voilà.
Une allusion directe au monde magnifique dans lequel nous
absolument
vivons.
Absolument.
Et puis peut-être une allusion aussi au film de Peeping Tom, de Pressburger.
Je ne sais pas.
Le voyeur, c'est ça.
Le voyeur,
le terme en français.
De Michael Powell et Pressburger.
Hein, peut-être.
Ceux qui ont fait les chaussons rouges.
D'accord.
Qui est magnifique aussi.
Qui a été donné et redonné à l'Institut Lumière.
Un petit chef-d'œuvre aussi, c'est Peeping Tom. C'est un type qui assassine des femmes et qui les filme parce qu'il veut capter le dernier regard avant.
Alors, c'est fort
assez
probable qu'il ait utilisé ça parce qu'effectivement, il y a un gros plan sur mon œil, comme ça, qui s'approche.
Bah voilà, tout de suite. J'ai pas vu le spectacle.
Effectivement, alors, vous voyez, c'est pas la peine d'y aller.
Si, je vais y aller.
Et moi qui ai lu le livret, c'est important, je crois. Il me semble qu'il y a un échange entre Carlotta et Alviano, justement, sur le regard, l'œil, quand elle le peint. Je crois que c'est dans l'acte 2.
Tout à fait. Elle tombe amoureuse de lui
en
le peignant,
elle souhaite voir son regard.
Voilà, elle tombe amoureuse de son âme au travers de son regard. Voilà.
Au 19e, la mythologie, au début de l'invention de la photographie, courait selon laquelle on pouvait encore capter dans l'œil de la victime l'image de son assassin. C'est un vieux,
oh là là.
C'est une vieille histoire.
Ça fait froid dans le dos.
Eh bien, c'est absolument terrible parce que Pascal est déjà là, donc l'émission va devoir se terminer alors que vous aviez encore beaucoup de choses à dire, peut-être encore 10 secondes. Marie, vous, ça a été dur pour vous, ça a été tourné concrètement en février, janvier, c'est ça,
cette scène-là? Ah non, ça a été tourné il y a quelques semaines, quelques jours même, il y a certaines choses qui ont été tournées très récemment. Oui, c'est difficile, oui, parce que c'est un personnage voilà, qui souffre et il a fallu hurler, il a fallu sortir beaucoup de choses de soi, donc ça a été très dur, ouais. Mais c'est très intéressant aussi parce que c'est un challenge.
Il a fallu toute la filmographie d'Isabelle Huppert.
Non, je n'en ai pas eu besoin.
Bon. Je lançais le nom de Pascal puisque c'est l'émission Le Blues des Canuts qui il est déjà dans la place. Nous allons regretter, Marie, que vous soyez arrivée, mais tout de même avec une belle avance.
Elle a bien fait de venir un quart d'heure en avance, la preuve.
C'était quand même très bien, mais il aurait sûrement quand même resté.
Comme d'habitude, ça passe trop vite, spectaculaire.
D'autres propos à tenir. Vous avez des projets toujours à l'Opéra de Lyon pour un prochain opéra, Péléas ou Carmen?
Donc, comme je suis titulaire, oui, on fait. Donc, Péléas, il n'y a pas de chœur sur scène, mais Carmen, bien sûr. Oui, Carmen, et puis ensuite on part au Festival d'Aix-en-Provence. Voilà.
Alors, bon voyage.
Attends, c'est pas encore fini, il faut mettre le générique, puis ensuite on pourra dire bon voyage, oui.
D'accord.
Voilà, seulement quelques notes pour indiquer que c'est la fin d'émission. Oh là là, mon Dieu, il est 15h, c'est l'émission Plus des Canuts qui devrait commencer. Merci beaucoup, Marie.
Merci.
Mais ce fut un plaisir.
Ah, c'était vraiment très intéressant. L'émission a été enregistrée. A priori, ça a fonctionné. On pourra donc la réécouter. Merci, Gérald. Rendez-vous mercredi prochain,
Christophe,
avec, je ne sais plus, metteur en scène pour le spectacle La Place Royale qui est donné au théâtre de la Croix-Rousse. Ça commencera la semaine prochaine, le mardi 17 mars.
Gérald. N'oubliez pas qu'il y a la fête du livre de Bron avec des grosses pointures. Bon. Bientôt, Virginie Despentes. On chroniquera le cas du polar, des expos de plasticiens et plein d'autres choses.
Et acheter de la presse, le 1 et Charlie Hebdo, c'est ça?
Le numéro 1. Alors là, il faut lire le numéro 1. On parlera de ce journal qui est vraiment très intéressant et récent et intéressant. Et puis la dernière couve de Charlie Hebdo, parce qu'ils en ont commandé des millions d'exemplaires, ils commencent à les renvoyer puisque plus personne ne les achète. Mais c'est dommage. Parce que la dernière couverture, c'est quand même Baison avant les élections, on votera moins con.
Gérald, à la semaine prochaine. Reste à l'écoute de Radio Canu. Salut, ciao tout le monde.